de retour en direct dans nos studios à Manosque où nous accueillons Stéphane Chénis. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue à Fréquence Mistral. Vous allez nous parler du spectacle Faux Jour qui est une lecture performance dansée comptée sur le vif et où les danseurs sont immergés dans un paysage sonore multisensoriel et ils suivent la voix du narrateur vers un voyage méditatif inspiré de Mémorandum de la peste, un texte de Georges Didi Huberman. Et à noter que ce spectacle, eh bien, si on en parle, c'est qu'il va se jouer dans la région, aux alentours de Fort-Calquier, Saint-Étienne-les-Orgues, Liman, Saint-Michel-l'Observatoire, Cérest, Bannon aussi, je crois.
Peut-être,
ce n'est pas sûr, d'accord, donc on ne parlera pas de cette date. Nous allons donc parler de ce spectacle Faux Jour qui a une forme particulière, on va revenir dessus. Mais tout d'abord, le texte d'origine, le texte inspirateur, Mémorandum de la peste de Georges Didi Huberman, qui est philosophe, historien de l'art, qui est professeur à l'EHESS. Et donc vous êtes partie de ce texte pour proposer ce spectacle, Faux Jour.
En fait, je pense que tous les travaux que nous réalisons au sein du collectif partent toujours des textes de Georges Didi Huberman. On est toujours à chaque lecture, à chaque thématique qu'on aborde, il y a toujours une fulgurance avec ces textes. Donc en fait, effectivement, Faux Jour est un petit peu une forme hybride qui est née d'un premier spectacle qui s'intitulait Mauvais Sang et qui était justement un long travail d'élaboration autour de la peste. Ce travail s'est terminé en 2020 et on devait aussi le présenter dans le cadre aussi de la grande épidémie de peste qu'il y a eu en 1720 à Marseille et puis après tout en Provence, voilà. Et donc on a terminé dans une dernière résidence, on l'a accompli et on a dû s'arrêter tout de suite après pour cause de Covid.
La peste alors, chassée par le Covid.
C'était très très troublant parce qu'on vivait en même temps qu'on créait, on vivait dans l'actualité alors que nous nous posions bien des années avant les questions mais comment on le vivrait de nos jours, voilà.
Donc vous êtes nourri de cette situation finalement.
De cette situation là, oui, tout à fait, et du coup aussi donc à l'époque le texte un petit peu fondateur qui a un petit peu articulé tout notre travail a été celui de Georges Didi Huberman qui a vraiment retracé de manière de toutes nos réactions, tout le rapport à travers évidemment de la culture, mais tout ce qui est les grandes épidémies de peste avaient laissé dans notre imaginaire et dans nos transformations sociétales. Voilà. Et donc en fait, aussi ce qui se passait, c'est qu'ensuite, bon, nous au niveau de Mauvais Sang, il y avait le spectacle qui se constituait en lui-même, mais au préalable, il y avait tout un travail qu'on a toujours fait. Un travail de préparation qui durait parfois plusieurs heures, de préparation physique, d'improvisation. Et là, le texte nous servait énormément parce que moi, je travaille avec les danseurs et autres artistes sur scène en direct et j'injecte régulièrement des images pour faire une espèce de premier voyage intérieur. Quand ce voyage intérieur est terminé, le spectacle pouvait commencer. Il s'est avéré que ce voyage intérieur est devenu de plus en plus long, de plus en plus intéressant et de plus en plus autonome. Et on a eu envie de lui donner une forme à part entière et qui est devenue, pour le coup, Faux Jour.
Alors, on va revenir sur cette forme très spécifique que vous proposez. Mais pour réinsister en quelques mots sur ce texte, peut-être peut-on le présenter, alors pas dans son entièreté, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans les textes de Georges Didi Huberman? C'est la dimension sociale à la lisière historique, à la lisière de la poésie ou même complètement dans la poésie, ces textes.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il prend là pour le coup c'est un événement factuel, il s'agit de la peste, et ensuite à travers tous les écrits qu'il a compulsés, puis les tableaux, puis voilà tout son archivage au niveau des arts, il arrive à porter un regard métaphysique, poétique et qui transcende la réalité, c'est-à-dire que la réalité de la peste factuelle, qu'est-ce qui c'est, combien de morts, et ensuite il arrive à avoir une réflexion et une distance qui nous permet nous-mêmes de lire l'événement avec un recul, et qui d'ailleurs, franchement, et je peux, enfin, je l'ai pas entendu parler dans le temps du Covid, mais franchement, même son écrit, alors que nous travaillons sur la peste, il y a tellement de choses qui se sont retrouvées même en période de Covid, où il y avait déjà ce regard, où la position humaine est au centre et toutes nos contradictions, tout. Enfin, c'est ce regard-là, poétique, quasiment métaphysique, cette distance qui nous permet sur un sujet de l'englober dans une vraiment une totalité, quoi.
Alors, il y a ce texte et comme vous l'avez signifié tout à l'heure, vous construisez ensuite cette pièce de théâtre, ou peut-être peut-on parler de performance oui. In situ, située dans des endroits spécifiques, qui, j'imagine, joue aussi sur ce que vous proposez.
Allez-y. Alors oui, la seule chose, c'est que je voulais revenir sur le texte.
Pas de souci.
Parce qu'en fait, c'est une des particularités de Faujour. C'est que comme on travaillait toujours dans cette idée de l'improv, c'est moi qui guidais à chaque fois et les artistes sur scène, à part de notre échauffement et de notre préparation corporelle, ils partaient pour un voyage. Ce voyage leur était souvent inconnu et on a voulu que le public, quand on a décidé que Faujour allait exister de façon autonome, on a voulu que le public lui aussi soit complètement dans ce voyage-là. Et on a décidé que les textes qui seraient lus ne seraient jamais les mêmes d'une soirée à l'autre. Donc ensuite, à partir de notre proposition de Faujour, il y a eu d'autres écritures. Donc je vais également préciser qu'une des artistes qui danse, d'ailleurs dans la performance, a écrit tout un texte. Elle s'appelle Mathilde Segond. On peut retrouver plein d'écrits. Elle écrit beaucoup de poésie, du théâtre. Mmh. Et elle a vécu, on va dire, intérieurement, par exemple, le processus de Faujour. Et elle a eu envie d'écrire des textes là-dessus. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je pioche parmi toutes ces inspirations, à partir de l'humeur du jour, à partir du lieu dans lequel nous nous trouvons, à partir de quelque chose de sensoriel, qui n'est pas, on peut pas le définir, il n'y a pas de raison, la version change d'une fois à l'autre. Donc eux-mêmes, il y a des extraits qu'ils connaissent, mais on se permet de se dire aujourd'hui, on part tous de là, mais on ne sait pas tout à fait, on ne connaît pas toutes les conditions du voyage. Voilà, et donc les textes sont modifiés, parfois il peut y avoir des insertions, si dans la journée il y a eu un petit passage qui m'a plu, hop, c'est inséré, voilà, c'est un petit peu une particularité.
Et ce moment de Faujour se joue pour le coup en extérieur, à l'aube ou au crépuscule.
Voilà.
C'est le moment important.
Oui, ce sont des moments entre deux. Tout notre spectacle, je pense, se situe entre deux choses. Une pensée assez orientale et japonaise. Et où justement, on n'essaie jamais de définir clairement, on est toujours dans une zone. Et au niveau du temps, de la représentation et au niveau du lieu, ça nous semblait important d'être dans la continuité de cet entre-deux. Donc le temps de l'aube ou le temps du crépuscule, c'est parfait.
Et à chaque fois, effectivement, ce sont des lieux particuliers puisqu'on passe d'une abbaye, un vieil amphithéâtre de pierre, une chapelle, un prieuré.
Et le 04, on va dire, le département en regorge, et c'est pour ça que c'est notre deuxième édition cette année. L'année dernière, pareil, on avait investi d'autres lieux, et ce sont des lieux qu'on découvre. On découvre aussi que donc la peste a touché énormément la région, puisque des chapelles ont été spécifiquement construites. L'année dernière, par exemple, on avait joué à la chapelle à Somman, une chapelle qui avait été bâtie pour le temps de peste de l'époque de 1720, justement. Donc, ces lieux regorgent d'histoires qu'on a oubliées. Ce sont aussi des chapelles, là, cette année surtout, ou des abbayes qui sont dans des lieux absolument merveilleux, mais hors du monde, hors du temps, hors des sentiers battus. Et ça nous correspondait sur nous, dans notre travail, qui est aussi autour de la mémoire, aussi autour de ces lieux du passé dans le présent, et cette configuration, ce croisement, en tout cas, nous intéresse. Et du coup, évidemment, les lieux n'étant pas dans les mêmes endroits à chaque fois, les atmosphères et le spectacle s'adaptent continuellement à ces lieux-là, quoi.
Donc une dimension territoriale, disons, liée au spectacle, une narration poétique, mais aussi une performance où qui s'entremêle avec ce qu'on appelle la danse buto. C'est une performance conçue dans l'esprit des pièces du théâtre No. Il va falloir nous dire quelques mots sur le...
C'est deux choses différentes, mais...
Expliquez-nous alors, voilà, ces deux choses différentes.
C'est l'esprit japonais. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse, et ce que moi j'ai proposé à ce collectif quand on a décidé de vraiment se réunir ensemble, c'est de faire ce travail donc qui part de la danse buto et qui ensuite nous le menons vers là où on veut. Ici on est 12 en tout dans le collectif pluridisciplinaire. Mais le travail autour du buto est une forme qui m'a beaucoup intéressé depuis très longtemps. J'ai vécu un petit peu au Japon, j'y suis allé régulièrement. Et c'est une forme qui travaille vraiment sur, alors, un esprit japonais. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un lien avec le théâtre No. Le théâtre No est une forme classique. Elle doit avoir 500, 600 ans. C'est une des formes qui a été créée, à partir de choses de rue, par contre. Et il y a Uzeami, qui a été un auteur, qui a décidé de créer cette forme-là qui correspondait à tout l'univers japonais. Alors, c'est-à-dire que c'est très très long. Une forme de nous dure à peu près 8 heures. Ce sont des pièces qui amènent dans une méditation. Alors, on part avec notre esprit de l'extérieur. Et puis, tranquillement, on va revisiter des pièces. Il va y avoir une pièce de guerrier, suivie une pièce une pièce de dieu pour commencer, une pièce de guerrier, une pièce de femme, une pièce de femme folle et une pièce de démon. Et ce sont toutes les énergies, en fait. C'est un travail qui est une forme de méditation entre l'énergie explosive, expansive, l'énergie introvertie. Donc voilà, c'est tout un travail. Alors si pour donner quelques images, on les connaît, ils sont masqués souvent, perruqués.
C'est l'image qu'on en a généralement.
Voilà, des kimonos très élaborés. Mais par contre, là où ça rejoint, je dirais, l'esprit fondamental japonais, c'est qu'on est toujours encore là dans on est toujours dans les histoires. Il y a deux personnages principaux dans le théâtre No. Il y a le Waki. Le Waki est un personnage qui est souvent à l'origine un moine qui arrive dans un lieu où il sait qu'il y a eu un drame qui s'est joué là, quelque chose de catastrophique. Et il va essayer de méditer pour que l'âme de cette personne défunte s'apaise. Et en fait, ce qui arrive, c'est que le fantôme de cette personne-là, que ce soit une femme ou un guerrier, revient et rejoue en quelque part tout ce qu'il a vécu, il ou elle a vécu. Et donc, on est toujours dans l'idée que il y a un public, il y a un personnage qui permet d'avoir accès à l'invisible. Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est la mort qui vient un temps dans le monde du vivant pour essayer de rejouer le drame? Voilà, c'est toujours cet esprit-là des frontières de l'entre-deux qui sont très 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 tenues, très tenues, et il y a toujours cette idée de passage qu'on retrouve dans tous les films japonais, dans tous les romans, même les plus modernes, dans Murakami, vous avez toujours un ascenseur entre un étage et l'autre, et deux mondes qui peuvent changer d'un étage à l'autre. Donc voilà. Ensuite, le buto, lui, est né, au contraire, à la fois s'est inspiré de cette tradition, on va dire, de cet esprit, de cette culture, et a voulu aussi complètement la briser. Alors, le buto est né après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, après les horreurs d'Hiroshima, etc., mais ça a été un danseur essentiellement. Il y a eu plein de créateurs. Il y en a deux très fortes figures qui sont Kazuo Ono et l'autre, c'est Hijikata. Et c'est surtout Hijikata qui a voulu se rebeller un petit peu contre la culture japonaise. J'ai dansé une fois avec un danseur japonais et qui m'avait dit qu'en fait, une des grandes défaites, bien plus que parfois peut-être même la bombe, ça a été quand le général MacArthur, je crois l'américain, a obligé l'empereur à dire au micro, à la radio justement, qu'il n'était pas d'essence divine. Et c'est-à-dire que c'était une forme en direct de négation totale de ce qui avait été le Japon. Et donc, à partir de là, toute la nouvelle génération s'est posée des questions et a voulu, du coup, tout casser les codes. Donc, autant le théâtre no était habillé de kimono, perruque, comme je le disais, le buteau est devenu nu, décor nu, blanc. Alors, le blanc, on le retrouve depuis le début, mais voilà, c'était décor nu, blanc, décor qui évoquait évidemment le squelette, évidemment le travail de la mort, évidemment l'hécatombe d'Hiroshima. Mais je dirais que au-delà de ça, c'est nous, en tant qu'Occidentaux, on met cette image-là parce que, bon, ça nous contextualise, et ça n'est pas faux, mais c'est une autre continuité et radicale de ce travail-là, propre au Japon, de ce monde. Alors, le buteau, c'est un corps créature qui va se métamorphoser, qui va aller à l'opposé de la danse parfaite, qui va au contraire danser toutes les faiblesses, toute la rouille du corps, toute la fragilité, la force démoniaque parfois, qui va danser la végétation, l'animalité, la part humaine ou les tous en même temps. C'est un voyage intérieur, en fait, où toutes les métamorphoses sont possibles. L'infiniment petit également est possible, est visible, est dansé. Mais voilà, ce sont des choses qui existaient auparavant, mais qui ont pris une forme radicale. Je sais que Hijikata a été, par exemple, impressionné et inspiré par le travail d'Artaud, et puis après aussi dans un style beaucoup plus frénétique, le jazz aussi qui a lancé
du poète Antonin Artaud.
Du poète et de l'homme de théâtre Antonin Artaud aussi, c'est vrai. Et donc nous par exemple notre travail sur la peste, on pouvait ne pas lire Le théâtre et son double, Le théâtre et la peste, où justement la peste est pour lui, et c'est là aussi notre point de départ aussi dans notre projet, est un lieu de théâtralité où tout est possible, où toutes les normes de la sociétale tombent, s'effondrent, et là on assiste à des choses incroyables, et c'est le théâtre le théâtre qu'on peut faire danser sous forme catharsisique. Voilà, donc du coup, et voilà, et tous ces univers-là se rejoignent, quoi.
Cette proposition de faux jour, elle est ouverte et proposée à tout le monde. Est-ce que c'est tout public?
Alors, je pense que pour comprendre, on a eu du tout public. Au début, on s'était dit, il faut s'adresser à commencer par les adolescents qui peuvent vraiment raffoler parce que on est juste une forme à côté des normes habituelles et donc ça étrange et ça peut vraiment inspirer. Mais il s'avère qu'on a eu parfois des plus jeunes qui prendront ce qu'ils ont envie de prendre parce que la forme est très poétique. Alors bon, je pense qu'effectivement pour une histoire de compréhension, de sensibilité, de l'adolescence à tout après jusqu'où on veut, au contraire, il y a pas de souci. Mais c'est pas une frayeur, c'est une tension. C'est une tension dans tout le spectacle, avec des moments d'éclat, des moments de folie, des moments de douceur, des moments suspendus, éthérés. Et c'est ce mélange-là qui percute un petit peu nos représentations théâtrales, quoi, habituelles.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler de nouveau de ce spectacle Faux Jour. Et on change d'ambiance avec le clarinettiste Yom qui nous propose son titre Eldorado. Thank you. je coupe Yom en plein vol, puisqu'il nous reste assez peu de temps pour parler de ce spectacle Faux Jour proposé dans la région de Fort-Calquier pour ce mois de juillet. Et nous sommes avec Stéphane Chénis, qui est directeur artistique du collectif Anima Fact, qui propose ce spectacle dont nous sommes en train de parler et que nous avons présenté en première partie. Désormais, eh bien, nous allons aussi nous intéresser à ce collectif, justement, et à ses diverses propositions, puisque vous travaillez sur un théâtre interdisciplinaire, transversal, avec de la musique, des visuels, du plastique, même des marionnettes du théâtre aussi, bien sûr, tout un tas de choses.
Alors voilà, c'est justement un petit peu la création de ce collectif, c'est-à-dire sur le point de départ, c'était vraiment le travail corporel et le travail autour du buto et de cette sensibilité et de tous ces mondes dont on a parlé un peu plus tôt. Mais ensuite, c'était donc chacun avait envie de plonger dans ce travail-là physiquement. Mais ensuite aussi, la plupart des artistes sont spécialisés dans d'autres choses, et c'est ces rencontres interdisciplinaires qui ont créé aussi ce collectif. Donc on passe effectivement de l'art plastique à la danse, à la vidéo, à la musique, au théâtre, bien sûr, au cirque. Et c'était assez chouette de créer ce noyau-là qui avait des provenances et des parfums différents. Et on s'est dit, on va essayer de se lancer, du coup, pas forcément côte à côte, mais on va tous essayer de partager, de vivre les expériences de chacun. Donc tout le monde s'est mis à un moment donné à travailler avec l'argile, à faire ci, à faire ça, enfin, à se mêler un peu de tout. Et c'est ce qui fait qu'on est devenu progressivement une entité, et à part entière.
Et vous parlez notamment de ces moments collectifs comme des archéo-chorégraphies.
Alors voilà, les archéo-chorégraphies, c'est justement effectivement ces moments privilégiés qui nous ont permis d'exercer tous nos talents et d'aller tous ensemble nous tourner vers l'archéologie. C'était quelque chose qui évidemment me plaisait et nous a plu vraiment, parce qu'en fait, c'était évidemment très ouvert. On a travaillé avec des archéologues, on s'est dit qu'on avait envie de devenir très sérieusement de faux archéologues et de se raconter des histoires complètement bidons sur des lieux, mais d'y croire vraiment à 100%, et de mettre tout notre potentiel scientifique, pseudo-scientifique et artistique au service d'un site, et de se dire on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là, et vous allez y croire comme ça n'est pas possible. Donc voilà, on s'est dit on va créer des super fictions autour de justement de nos capacités interdisciplinaires et aussi de notre état de notre capacité d'état d'écoute du lieu, mais sur le moment présent évidemment, parce que s'il y a un ticket de métro, un ticket d'achat devant une église, pour nous c'est une preuve de quelque chose, mais aussi de toutes ces strates lointaines et plus historiques avec lesquelles on s'amuse. Donc ce sont effectivement des formidables terrains de jeu et de moments sur lesquels tout le monde se dit à moi de faire comme comme les vrais archéologues, on fait un carroyage de l'espace, on enlève le surplus s'il faut enlever le surplus, on déterre si on doit déterrer. Alors nous c'est tout, c'est open, c'est vertical, horizontal, en profondeur, 6 pieds sous terre, peu importe, on est capable de tout. Ensuite chacun on a tous nos sachets avec étiquetage, tout ça, les dates, les lieux, tout est très précis, très scientifique, on plaisante pas avec ça. Ensuite chacun part dans son laboratoire, et puis avec son laboratoire chacun va créer une fiction, un moment, et puis tous ces moments se rencontrent et font une archéo-chorégraphie qui est présentée au public. Voilà.
Présentée au public, est-ce que vous avez aussi des moments de proposition au public,
laboratoires? Il y en a plusieurs. Là, pour le coup, on va se rencontrer. Alors là, c'est sous forme d'atelier pour connaître un petit peu le travail et aussi pour justement quitter l'aspect purement soit théâtral, dansé, pour aller vers d'autres recherches. Alors, on a une première rencontre sous forme de stage qui est donc à la colle au Béga Théâtre du 28 au 31 juillet. Là on va ça s'intitule Imago, c'est un stage de 4 jours complètement immersif où là justement on va s'amuser entre le corps et les masques voilà qu'on va déformer, mais le masque c'est aussi le travail en extérieur avec les matières, voilà, c'est tout ça. Donc ça c'est un moment fin juillet, puis on a aussi un autre moment avec Salagon, on retrouve Salagon,
le musée de Salagon à Mamme.
Le musée de Salagon et les jardins de Salagon. On avait fait une archéochorégraphie il y a 2 ans pour les journées du patrimoine, et là on va se retrouver sur un, bon alors c'est très court, on va s'amuser sur la difformité justement, c'est le 20 et 21, c'est un week-end, il y a un travail sur le côté des ogres et ogresses avec les adultes, et puis on va travailler le côté petit poussé avec les jeunes qui auraient envie, et on va se faire une petite battle le 21 dans entre les monstres des adultes et la ruse et le jeu des enfants, voilà. Et c'est dans le cadre des mythologies au jardin de Salagon.
S'il y a des auditrices et auditeurs intéressés, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre site internet, qui est peut-être la manière la plus simple pour retrouver toutes ces informations, à la fois pour le spectacle Faux Jour qui se joue donc en juillet, et aussi ces différentes dates ouvertes au public?
Alors vous avez le site du collectif, qui est collectif animafact tout attaché .wordpress.com. Il y a également l'autre compagnie qui est un petit peu la première qui a donné naissance au collectif, qui est Ophrenie, O-P-H-R-E-N-I-E, .wordpress.com aussi. Voilà, c'est les deux sites sur lesquels toute l'information circule.
Merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Stéphane Chenis, d'être venu dans nos studios, et rendez-vous en juillet donc pour Faux Jour.